Bonsoir et bienvenue à l'émission État de splendeur en cette belle soirée d'été du 17 août 2010. Alors, vous venez d'écouter Aphex Twin avec la pièce Crying in Your Face. Alors, j'espère que vous allez apprécier l'émission aujourd'hui. On a plusieurs chroniques, dont les deux chroniques récurrentes qui reviennent habituellement, la chronique monastique et fantomatique. Et puis, en fait, cette semaine, les deux sujets sont un peu particuliers parce qu'ils sont interchangeables. La chronique fantomatique, le premier sujet est en fait en train de devenir un fantôme. Et puis, le sujet de la chronique fantomatique qui explore d'habitude un pan qui est devenu défunt, un pan défunt de notre patrimoine au Québec. Le sujet de la chronique fantomatique aujourd'hui est vivant, donc c'est un peu paradoxal. Mais quoi qu'il en soit, voici les sujets de la journée. On va parler, le premier sujet, c'est au pays du caviar, c'est un patrimoine méconnu de l'ouest du Québec. Et puis c'est quelque chose qui tend à devenir un fantôme. Et puis, sinon, le deuxième sujet, c'est qu'on va faire une halte dans une très jolie fromagerie fermière montérégienne. Et puis ensuite, il y a la chronique monastique qui, aujourd'hui, va explorer un monastère un peu moins connu. C'est le monastère à Mistassini, qui est réputé pour une certaine raison. Et puis, on va explorer ça plus tard. Et enfin, il va y avoir la chronique fantomatique avec, encore une fois, un membre de l'espèce mammalienne et encore un autre revenant de l'ère glaciaire. Alors, ça risque d'être intéressant. Et puis, pour tout de suite, on va retourner en musique et puis on va écouter une pièce de musique qui est un peu ancienne. C'est une pièce qui a été reprise par les Supremes. Il s'agit de Chain Gang. Et puis ça, c'était à l'origine une pièce de Sam Cooke, une pièce qui parle de des malheureux prisonniers qui travaillent tous enchaînés sur le bord des routes à faire des fossés ou à nettoyer le bord des autoroutes. Et puis c'est un phénomène qui a été revitalisé dans l'Alabama dans les années 90, mais bon, c'est pas le sujet de l'émission. Allons tout de suite écouter les Supremes avec Chain Gang.
Chain gang,
C'était de Chain Gang avec les Supremes. Et puis, qui sait, peut-être que sur la côte ouest, dans le sud des États-Unis, il y a des membres d'un Chain Gang qui viennent de finir leur shift. Alors, le premier sujet de la journée, c'est au pays du caviar. Alors, on le sait très peu, mais dans l'ouest du Québec, on a du caviar véritable. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est exclusivement russe ou de la mer Caspienne, mais non, on en a du véritable. En fait, la zone en question d'où provient ce caviar est elle-même méconnue, c'est le Témiscamingue. Quand on dit Abitibi-Témiscamingue, le Témiscamingue, c'est comme le petit frère oublié au sud de l'Abitibi. Hein. Et puis, dans ce lieu, Ville-Marie, c'est le nom de la ville qui est la capitale ou le chef-lieu du Témiscamingue. Pourquoi c'est méconnu? Ben c'est que malheureusement, il y a comme une aberration. Et puis, lorsqu'on part du sud du Québec, on doit obligatoirement passer par l'Ontario pour s'y rendre. Ce qui fait que du point de vue touristique et puis du développement, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et ça n'a jamais favorisé la visibilité du Témiscamingue, malheureusement. Mais on va le voir, il y a certains produits phares qui font de sorte que ça commence à être reconnu de plus en plus. Parce que, en fait, c'est un non-sens total parce que ça isole la région. Et pourtant, c'est une des plus fertiles du Québec, ben, à cette altitude-là, en tout cas. Ça recèle même quelques microclimats qui peuvent permettre même la culture de la vigne. Il y a certaines, il y a un vin qui se fait là-bas, mais il y a aussi beaucoup de cultures de vignes qui sont là dans le but de faire des vins éventuellement, mais c'est encore au stade expérimental. Et ça semble se prêter à merveille. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle pas de la vigne, mais bien du caviar. Alors, il y en a certains qui peuvent considérer le caviar comme une pratique barbare, mais sachez que, premièrement, je ne suis pas végétarien nécessairement. Là. Je tends à manger plutôt de la viande biologique, mais ce n'est pas encore le cas, mais je tends vers ça. Mais c'est que, en fait, les poissons qui sont pêchés pour le caviar ne sont pas exclusivement pêchés pour leurs œufs. C'est pas comme si on prenait leurs œufs et puis on les relâchait dans l'eau pour qu'ils souffrent et qu'ils finissent par mourir. Non, c'est bien des poissons qui sont pêchés selon pour les utilisations conventionnelles. On utilise presque toute la chair du poisson et on profite du fait que certaines femelles ont des œufs, puisque les œufs en question sont très précieux dans ces lacs du Témiscamingue. En fait, il faut faire la distinction parce qu'il y a beaucoup d'œufs de poissons qui sont sur le marché, ça c'est assez courant, qui se font appeler caviar. Il y a même du caviar d'aubergine, et puis etc., mais c'est pas du tout du caviar. Les œufs de poissons, pas nécessairement du caviar, il faut y référer sous ce terme-là, justement, les œufs de poissons. Le caviar, c'est exclusivement provenant de l'esturgeon. Ça, c'est par définition comme ça. Et au Témiscamingue, vous me direz, il n'y a pas de mer, mais pourtant, il y a une certaine rareté au lac Témiscamingue, au réservoir Baskatong et dans des endroits comme ça. C'est une des seules places au monde où il y a un esturgeon qui est dans l'eau douce. Et puis, cet esturgeon jaune en question dont on parle, il y en a ailleurs aussi. Il y en a dans les grands lacs. Il y en a en fait dans pas mal tous les bassins versants de la baie du Tson. Il y en a probablement plus au sud dans les États-Unis. Mais là, on se concentre sur le lac Témiscamingue et puis le réservoir Baskatong, là où on peut retrouver la Cipenser fulvescens. Et puis, c'est une grosse bête préhistorique, on le soupçonnerait pas, mais c'est comme un des proches parents du requin, puisque c'est issu du Dévonien. Dévonien, honnêtement, je vous dirais que je ne sais, c'est une période préhistorique, je ne sais pas laquelle précisément, mais c'est vraiment une grosse bête préhistorique. Les plus gros spécimens peuvent atteindre 185 kg. En fait, le plus gros ayant été enregistré faisait 185 kg. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement déplaçable. Donc, on parle d'une grosse bête et non d'un simple petit poisson. C'est une bête assez respectable. Assez respectable et même assez vénérable, parce que le plus vieux esturgeon jaune qui a été pêché avait 154 ans. Alors ça, c'est quelque chose de très vénérable. Au début des années 2000, on a commencé à commercialiser donc ce produit phare du Témiscamingue et du Québec. C'est le caviar de l'esturgeon jaune, qui est quand même assez réputé dans le monde. Il rivalise avec certains caviars de la mer Caspienne. Évidemment, c'est pas comme le caviar de Beluga, qui est le numéro un mondialement et puis le plus réputé, mais il peut rivaliser et est tout à fait respectable à côté de d'autres caviars d'esturgeon qui sont commercialisés de la même manière. Donc, la poissonnerie Témis, c'est une entreprise à Saint-Bruno-de-Gigue, ou de Saint-Bruno-de-Gigue, qui en a fait une distribution, premièrement, à l'intérieur du Québec, mais de plus en plus, surtout au début des années 2000, il y a eu comme une petite explosion qui a fait de sorte que ça a été commercialisé même internationalement. Donc, ça a été fort favorable, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que depuis 2007, l'esturgeon jaune est en baisse. Et est en baisse pas mal partout, à cause de certaines conditions climatiques et de reproduction, mais aussi à cause de sa surpêche, justement à cause du caviar. Donc, ça a été placé sur la liste des espèces menacées de disparition. Alors, il est protégé. C'est donc assez difficile de trouver ce caviar-là. Surtout à Montréal, c'est difficile. On retrouve encore le caviar de la poissonnerie Témis, mais c'est relativement rare. On en retrouve à Québec, il y a la poissonnerie Unimer au Halles-Sainte-Foy qui en a. Et sinon, pour les Montréalais, vous pouvez aller en déguster au Fourquet Fourchette, qui est un très bon restaurant, non loin du fort de Chambly, à Chambly. Et puis on en retrouve un peu partout en Abitibi, même à Sudbury en Ontario. Et puis, juste le fait de savoir que c'est un produit qui existe encore, c'est réconfortant, mais j'espère qu'ils vont trouver un nouveau mode d'exploitation qui va faire de sorte que ça va être exploité de manière intelligente pour conserver, j'ose pas dire la ressource, parce qu'on parle quand même d'un animal, et il faut être un peu respectueux envers ça, mais c'est quelque chose de phénoménal que cet animal nous donne, et il faut en être reconnaissant, et puis il faudrait pas que cette lignée de poissons-là, qui est une lignée qui dure depuis des siècles et des siècles, il ne faudrait pas que ça s'éteigne à cause de notre gourmandise du caviar. Ceci dit, le caviar lui-même est phénoménal, j'y ai moi-même goûté. Sans être pourtant un féru du caviar non plus, là. Alors, cette espèce de poisson ancestral pris dans l'eau douce depuis la dernière glaciation, on lui souhaite une très bonne descendance, et puis j'espère qu'il va trouver moyen de prospérer et qu'on va savoir goûter avec parcimonie à son caviar. Alors, parce que c'est un patrimoine pour le monde de ces bêtes-là, et si on veut pouvoir continuer à goûter à son caviar et continuer à apprécier sa présence dans nos eaux, il va falloir y faire attention. Alors sur ce, on va y dédier à l'esturgeon jaune une musique quelque peu aquatique, et on va retrouver un artiste anglais qui s'appelle Aphex Twin, qui a fait une pièce également aquatique qui s'appelle Analog Bubble Bath, qu'on écoute tout de suite. Aphex Twin avec la pièce Analog Bubble Bath. Le deuxième sujet de la soirée, c'est une halte dans une fromagerie fermière montérégienne. Et puis, on devrait commencer tout de suite par spécifier ce que c'est en réalité qu'une fromagerie fermière. Ça, c'est un sujet qui a déjà été exploré dans certaines émissions du début d'État de splendeur, mais étant donné qu'ils sont plus disponibles dans les archives, il faudrait bien le réitérer. Donc, il y a trois types généraux de fromage. Évidemment, ça peut être classifié de plusieurs façons, mais il y a le fromage standard, le fromage fruitier et le fromage fermier. Le fromage standard, c'est le fromage qu'on peut trouver un peu partout, qui est fait à différents degrés de qualité et qui est fait avec le lait de plusieurs différentes fromageries qui est mis ensemble sans discrimination. Le fromage fruitier, lui, c'est un fromage dont plusieurs fermes d'un même endroit, d'un même terroir, idéalement, ou d'une même sous-région, mettent en commun leur lait pour faire un même fromage. On peut retrouver cet exemple-là avec la fromagerie Le Baluchon en Mauricie. Sinon, on peut retrouver cet exemple-là de manière assez fréquente avec les comtés et les gruyères en Europe, où il y a plusieurs fermes d'une même région, ou d'un même terroir des fois, qui mettent en commun leur fromage pour réaliser une création collective. Et finalement, il y a le Nec Plus Ultra, qui est relativement rare et de plus en plus ces temps-ci. Il s'agit du fromage fermier. Le fromage fermier, lui, est fait avec, fait exclusivement avec le lait des vaches qui habitent sur la ferme où est fait le fromage. Donc, c'est fait avec un seul troupeau. Et puis, le fromage est fait sur la ferme où habite ce troupeau. Les fromageries fermières au Québec, en tout cas, ont eu beaucoup de difficultés à survivre suite à la crise du lait cru, la crise de la listériose en 2008. On peut penser à la fromagerie Lehmann à Héberville au Lac-Saint-Jean, qui, par exemple, a dû, malheureusement, pour se conformer à certaines exigences, a dû pasteuriser tous ses produits quand, à l'époque, bien qu'il s'agisse d'une fromagerie fermière, là, à cause de certaines interventions du MAPAC et puis aussi à cause de la crise de la listériose, ils ont dû pasteuriser tout leur fromage et même que il y a un fromage à cause de ça qui a dû disparaître. Donc, c'est une assez triste histoire. Mais au moins, ils ont trouvé moyen de rester vivants. Donc, c'est grâce au fait qu'ils ont su comment se tenir les coudes puisque c'est un fromage fait exclusivement par une famille qui tient cette ferme-là, la ferme de la fromagerie Lehmann. On fera une émission future sur cette vaillante famille, mais aujourd'hui on s'arrête plus précisément en Montérégie. C'est une de celles qui a survécu complètement. C'est la ferme au Gré des Champs, en Montérégie, à Saint-Athanas d'Iberville. Ça fait partie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, c'est une ferme multigénérationnelle, issue de la famille Gosselin, qui était là depuis très, très, très longtemps. Mais, étant donné que c'est une ferme à petite échelle qui utilisait très peu de pesticides et tout ça, ça a été certifié biologique en 1995. À partir de ce moment-là, M. Daniel Gosselin ainsi que sa femme Suzanne Dufresne ont décidé d'ouvrir une fromagerie. Mais pas n'importe quelle fromagerie, une vraie fromagerie authentique fermière. Alors, la fromagère, c'était Suzanne Dufresne, et celui qui s'occupe du troupeau, c'est Daniel Gosselin. Et donc, c'était pas si facile. Ça a pris plusieurs années d'expérimentation. Ils ont entrepris, ils ont engagé divers consultants. Et après plusieurs essais, plusieurs erreurs, ils ont trouvé leur formule idéale. Ils voulaient faire des fromages fermiers authentiques, mais qui reflètent leur terroir. C'est-à-dire que quand on goûte au fromage, on peut goûter un peu la particularité reliée à son lieu d'origine. Donc, pour faire ça, c'est pas évident dans les années 2000 et dans les années 90. Donc, leur façon de faire, qui est un peu à moitié secrète, c'est qu'ils ont trouvé moyen de semer à chaque année une quinzaine de différentes fleurs et plantes aromatiques. Alors, ils ont fait des tests pour voir quelle fleur avait quel effet sur la vache, si les vaches aimaient bien les manger, et aussi qu'est-ce que ça faisait au lait, quel goût est-ce que ça donnait au lait, et comment ça se traduisait dans le fromage, parce que le fait de prendre du lait et le faire cailler, et le transformer en fromage, l'affiner, ça peut un peu catalyser ou infirmer selon certaines propriétés gustatives là, qu'on peut retrouver dans le lait. Donc, ils ont trouvé cette recette d'une quinzaine de plantes et fleurs aromatiques. Il y a de la menthe, il y a de la chicorée. On ne peut pas toutes les énumérer puisqu'il s'agit d'une recette secrète. Mais ensuite, ils ont décidé d'employer, puisque c'est un peu comme ça, c'est un contrat d'emploi, des vaches suisses brunes, qui sont une ancienne fière race laitière, comme le nom le dit, issue de la Suisse. Et il y en a quand même pas mal au Québec, c'est ça aussi que la ferme Lehmann utilise. Et puis, c'est des vaches qui sont très bien traitées. Et ben, en fait, on s'est arrangé pour que les vaches aiment ces plantes-là, parce qu'il faut, ça ne sert à rien de planter des herbes si les vaches ne vont pas les manger, parce que ça n'aura aucun effet sur sur le lait. Et on a réalisé que les fleurs qu'on met dans le bouquet sont un peu comme du bonbon pour les vaches, parce que c'est un peu plus sucré. Et puis, ils en raffolent à un point tel qu'ils vont jusqu'à défoncer les clôtures électriques pour aller en chercher plus. Alors, c'est toute une gestion que M. Gosselin fait pour essayer de diviser son champ pour pas que les vaches aillent manger toutes les fleurs d'un coup. Là. Donc, il rationne ça, et puis c'est assez agréable, puisque ça donne des aspirations aux vaches. Et puis d'ailleurs, il semble assez heureuses, les vaches. C'est vraiment des vaches qui sont non surmenées. Si on prend par exemple les vaches habituelles, les vaches les plus conventionnelles utilisées qu'on trouve dans une grosse proportion des élevages, c'est les vaches Holstein. Et puis si on fait une moyenne, ils vivent à peu près 3-4 ans. La grosse majorité du temps. Ensuite, on considère qu'ils produisent plus assez. Les vaches, au gré des champs, ils produisent vraiment bien pendant une bonne dizaine d'années. Donc, ça fait quand même une grosse différence, 4 ans versus 10 ans. Et puis après ça, ils sont mis à la retraite, et donc ils continuent à vivre. Au gré des champs, ils font 3 fromages principalement. Il faudrait les nommer, parce que ça, c'est une des rares fromageries qui a su comment non seulement survivre après cette malheureuse crise de la crise folle de la listériose. Ils ont non seulement survécu, mais aussi ils ont continué à faire leur fromage au lait cru. Une bonne partie des autres fromageries, pour se plier aux exigences un peu sévères du MAPAC, et puis aussi au fait que la population a pris peur au fromage au lait cru, ils ont décidé de pasteuriser leur fromage. C'est un peu une histoire triste, mais c'est la réalité pour se conformer au marché. Mais eux ont trouvé moyen de continuer à faire leur production sans pastex. Le pastex, c'est l'instrument qui est utilisé industriellement pour pasteuriser le lait. Alors, on va nommer leurs 3 fromages, vu qu'ils sont bien dignes de mention. Leur premier, c'est le fromage éponyme, le Gré des Champs. C'est une pâte cuite, c'est une petite tome là, qui est noisettée, parce que ils ont fait aussi des expérimentations sur la mise en l'affinage, et puis le fait que quand ils ont cuit leur pâte, ils se sont trouvés à sélectionner par erreur certains micro-organismes qui ont donné des notes un peu noisettées au fromage. Ils ont sélectionné les propionides. Et puis, ça donne un fromage qui est bien noisetté, qui est un tout petit peu herbacé. C'est bien agréable. Et ils ont une autre version de ce même fromage qui s'appelle le Manoir. Le Manoir, c'est un peu comme un Gré des Champs, mais fait en grosse tome, un peu à la... comme certaines tomes qu'on peut retrouver en Europe, puisque les malles de fromage qu'on fait au Québec sont quand même comparativement petites, si on les compare à celles qui sont faites dans d'autres pays, surtout dans le nord de l'Europe, dans l'ouest de l'Europe, pardon. Et ce manoir, c'est une grosse tome de Gré des Champs, mais qui est affinée plus longtemps, de 6 mois à avoir jusqu'à 1 an. Et ça a des bonnes notes noisettées, mais un peu plus sévères. Là, c'est très agréable. Et pour moi, le clou de la production du fromage à la ferme du Gré des Champs, c'est le d'Iberville. Le d'Iberville, c'est intéressant parce que c'est un fromage qui a un nom géographique et j'aime bien ça. Ça fait assez authentique pour moi parce que malheureusement, je trouve que plus personne dans les nouveaux fromages qui naissent donne des indications géographiques à leur fromage. C'est des noms qui sont fictifs à 100%, qui peuvent être très jolis et agréables à entendre, mais ça manque un peu des fromages qui rappellent d'où ils viennent dans leur nom. Alors le d'Iberville, c'est le fromage qui est plus à pâte semi-ferme, là. Et lui, c'est à mon avis celui qui reflète le plus le terroir. C'est là qu'on va chercher le plus de notes herbacées. Et puis, c'est quand même un fromage sérieux. Si vous le laissez reposer pendant quelques heures sur votre table avant de le déguster, vous allez voir que c'est un bon représentant pour les fromages du Québec. Moi, je le nommerais même personnellement comme un ambassadeur des fromages du Québec, puisqu'il incarne un peu les fromages traditionnels qu'on fait depuis belle lurette. Et c'est aussi un des fromages qu'on a toujours eu le droit de faire, parce que si on regarde comme les fromages, comme les camemberts et tout ça, on ne peut pas vraiment en faire au Québec. On peut en faire, mais on est obligé de les pasteuriser, ce qui est un non-sens total, pour arriver à faire des fromages du style camembert, mais qui rivalisent avec des camemberts, ou qui ont une intensité égale avec certaines pâtes molles en Europe. Il faudrait avoir le droit de ne pas les pasteuriser. Avec nos méthodes hygiéniques d'aujourd'hui, ça devrait être possible. En fait, c'est tout à fait possible, mais malheureusement, on copie nos normes hygiéniques sur les états frontaliers, donc on n'a pas le droit de faire ce type de fromage-là. Mais le fromage à pâte semi-ferme, vu qu'il est affiné plus de 60 jours, on a toujours eu le droit de faire ça. Et puis c'est un des fromages qu'on fait aujourd'hui, qu'on faisait il y a bien longtemps. Et donc, ça représente un peu notre tradition fromagère au Québec. Donc, je vous suggère vivement d'aller acheter un morceau du fromage d'Iberville à votre épicerie la plus près. Si la fromagerie du Gré des Champs a survécu, c'est grâce à la témérité de cette famille et aussi de la communauté, puisque bien des gens des environs viennent acheter leur fromage à la fromagerie du Gré des Champs à Saint-Athanas d'Iberville, aussi grâce à sa proximité de Montréal, mais c'est aussi grâce à une insistance des détaillants fromagers qui ont vraiment mis l'accent sur ce fromage-là pour qu'il puisse subsister et puis faire vivre cette fromagerie et cette famille-là. Donc, je vous encourage, évidemment pas exclusivement, je ne veux pas dire de ne pas acheter dans des grandes surfaces, puisque c'est très pratique d'acheter son fromage dans une grande surface, mais autant que possible, essayez d'acheter votre fromage dans une fromagerie, puisque souvent, non seulement la sélection est là, mais même pour le consommateur, c'est souvent moins cher. Alors sur ce, il ne me reste plus qu'à dire chapeau et longue vie à la fromagerie du Gré des Champs ainsi qu'à tous leurs fromages. Et je rajoute personnellement un chapeau au d'Iberville que j'adore. Et ce fromage est extra et on va aller retrouver Léo Ferré qui chante justement cet extra.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra, c'est extra. C'est extra. C'est extra. Ces bacs tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
Donc Léo Ferré. Léo Ferré avec la pièce C'est extra. Grand classique de lui. Une des rares pièces qui ne sont point triste de cet individu. Nous voilà arrivés à l'endroit de la chronique monastique. Et puis, aujourd'hui, on va encore enchaîner avec un nouveau monastère. Monastère quelque peu reculé. Et vous allez voir, les monastères semblent avoir la vie dure. On a vu le monastère d'Oka à la dernière émission. Et puis, il y a eu toutes sortes d'incendies et puis de reconstructions. C'est la même histoire pour ce monastère. On parle du monastère de Notre-Dame de Mistassini, qui est à Mistassini, dans le lac Saint-Jean. Et puis, c'est un monastère qui est quand même assez ancien, un monastère de tradition trappiste, comme les fameuses bières trappistes belges, mais eux ne sont pas brasseurs. Ils ont d'autres activités qu'on va voir maintenant. Et c'est un monastère qui a été fondé en 1892. Le monastère lui-même physiquement a été construit en 1893, non loin de la chute des Pères, une chute qui est assez connue, et puis sur le bord de la rivière Mistassini. Et à chaque année, il y a des crues printanières qui amènent des inondations à cet endroit-là. Ils ont donc construit une digue pour empêcher les crues printanières de les inonder. Malheureusement, en 1908, la digue cède et c'est donc le désastre. Le désastre, et ils sont obligés de changer d'endroit et ils déconstruisent le monastère et s'établissent un peu plus haut sur la côte. Le monastère est donc reconstruit en 1911, il est baptisé au mois de juillet, je crois. Et puis tout allait bien pour un certain temps. La communauté était fort contente parce que cet endroit-là, l'endroit du monastère en 1911, était fort prisé. En 1959, encore un autre désastre, un incendie grave, mais vraiment grave. En 2 heures, tout a été rasé. Le garage, la forge, la porcherie, la grange à récolte, la grange à nourriture pour les bêtes, la bergerie, la menuiserie, ainsi que toute la machinerie. Et c'est une perte totale. C'est assez triste, mais ça semble arriver souvent dans le cas des monastères. Je ne sais pas pourquoi, ça devrait être une coïncidence, du moins j'espère. Et donc en 1960, ça a été reconstruit. Et puis tout allait bien, la communauté semblait fort contente. Quoique je n'y étais pas. Et en 1973, un autre incendie. Mais bon, celui-là, il n'était pas vraiment grave. Là. Il y a seulement une partie de la grange qui a été incendiée. Il n'y a pas eu de perte d'animaux. Il y a seulement, il paraît que le taureau a pris peur et puis s'est enfui dans la nature. Ça. Et puis, il a été récupéré au début d'hiver. Là. Mais il était un peu amaigri, mais très content de rentrer. Il paraît que le taureau s'est pas fait prier pour rentrer dans son étable. Et ça montre que les moines de Mistassidi ont eu une bonne relation avec leurs animaux. Au moins, ils s'en occupent bien. Et donc finalement, en 1980, là, on voit le dernier transfert sur le site actuel. Et puis, s'ils sont retournés sur le site de 1911, à mon avis, ils ont bien fait parce que c'est le premier endroit qu'ils ont choisi qui était à l'abri de l'inondation. Ils y sont encore aujourd'hui, ce bâtiment subsiste aujourd'hui. Quand même assez joli. C'est pas trop, même si, parce qu'on pense aux années 80, les bâtiments qui ont été bâtis dans les années 80 sont pas particulièrement esthétiques si on en fait la moyenne, mais celui-ci a quand même fière allure. Et puis, la communauté subsiste jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une très petite communauté pourtant. Il y en a à peu près à peine une douzaine qui sont vraiment des moines permanents à Mistassini. Ils ont la vie dure là-bas. Le réveil est non pas à 7h du matin, ni 6h, ni 5h, mais bien à 3h45 du matin. Ça semble assez difficile. Je ne me prêterai probablement pas à ce rythme de vie-là. Mais le culte et le travail semblent faire une vie quotidienne agréable pour ces moines. Pas nécessairement agréable, mais c'est la vie qu'ils recherchent. Ils ont une vie frugale. Et puis, la communauté semble suivre son train de manière naturelle. Et puis, il y a une bonne atmosphère dans ce monastère-là. Ils sont connus pour leur hôtellerie. Ils accueillent de manière régulière des gens qui veulent faire une retraite là-bas ou simplement y dormir parce que c'est assez apaisant de dormir dans un monastère. Peu importe notre religion ou notre confession ou si on est ou non religieux, c'est quand même un endroit qui recèle une certaine paix d'esprit, là. Et c'est pas une hôtellerie qui est vraiment lucrative, là. On parle d'une trentaine de dollars. Et en fait, c'est même selon ses moyens. Si c'est quelqu'un qui en a vraiment pas les moyens, les gens sont acceptés là-bas pour passer la nuit. C'est une donation suggérée d'une trentaine de dollars. Si on compare ça au prix des nombreux hôtels et motels qu'on retrouve partout au Québec, à Arnaqueville, dans plein milieu de nulle part à 100 $ la nuit, c'est quand même une bonne aubaine. Trentaine de dollars pour la nuit. Il y a même quelques chambres où les couples sont acceptés, des chambres pour deux. Donc, c'est assez rare. Hein? D'habitude, dans les monastères, les hommes et les femmes sont séparés. Dans ce cas-là, c'est pas le cas. Et il fallait quand même le souligner parce que faire des retraites dans des monastères, c'est quelque chose qui est plus très très fréquent, mais qui est une bonne idée. Selon moi, ça peut être agréable. Selon, évidemment, il faut vouloir aller dans un environnement comme ça. Et puis, le monastère de Mistassini est surtout connu pour, comme bon nombre d'entre vous doivent le savoir, leur bleuet au chocolat de Mistassini. C'est les meilleurs au monde, tout simplement. C'est les premiers à avoir inventé cette astuce-là, d'enrober des bleuets dans du chocolat. Mais c'est des bleuets sauvages de la région, qui sont frais et craquants, et ils sont tout de suite mis dans le chocolat, alors ils gardent leur caractère frais et craquant. Et puis, ils sont très bien conservés à une température qui fait de sorte que ils sont très, très frais. Le chocolat aussi, c'est pas un chocolat cheap à la paraffine, n'importe quoi qui est mis là-dessus, là, cheap. C'est un chocolat qui est fait sur place parce qu'ils ont une chocolaterie. D'ailleurs, ils ont toutes sortes d'autres produits de chocolat qu'ils font sur place. Mais c'est leur chocolaterie même qui sert à faire ces fameux bleuets-là. Et puis, ils en ont fait leur réputation avec ces bleuets au chocolat. C'est disponible en général seulement au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Mais on en retrouve aussi à Québec. Et quand ça arrive dans certaines boutiques, c'est la fête. Il y a beaucoup d'imitations, mais aucun ne ressemble au bleuet de Mistassini, car ils ont un je ne sais quoi de secret qui est très, 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 très agréable. C'est des bleuets au chocolat qui font un peu rêver. On peut les retrouver à Québec souvent, chaque année, ils arrivent vers le milieu de l'été, au J.A. Moisan, par exemple. À Montréal, c'est un peu plus difficile de les trouver, là. C'est assez rare. Certaines boutiques en font venir des quantités assez restreintes, dans un camion réfrigéré et tout ça, mais c'est pas vraiment répandu, puisqu'il y a tellement d'imitations que c'est économiquement presque pas viable de les importer, là. C'est quand même une assez petite production. Donc, si jamais vous tombez sur les fameux bleuets du lac Mistassini, je vous conseille vivement de les acheter et de les conserver au froid ou de les manger tout de suite. En fait, je vous conseille de les manger tout de suite. Si vous pouvez, partagez-les, parce que c'est le genre de chose qui est quand même agréable à partager. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le monastère de Notre-Dame de Mistassini, si vous voulez dormir, passer quelques nuits là-bas, que ce soit seul ou en couple, vous pouvez appeler au 418-276-0491. Et puis, un frère se fera le plaisir de vous répondre et de vous guider. Et sur ce, ben, je souhaite aussi une très longue vie au monastère Notre-Dame de Mistassini. On va retrouver un certain Alton Ellis avec une pièce qui pourrait être une exclamation que quelqu'un fait quand il mange des bleuets du lac Mistassini. Les bleuets au chocolat, c'est « You made me so very happy ». Alton Ellis, artiste jamaïcain, avec You Made Me So Very Happy. Voici arrivé le dernier quart de l'émission avec la chronique fantomatique. Et aujourd'hui, comme la semaine passée, on va continuer avec un autre membre de l'espèce des mammifères. Une espèce qui fait partie des mammifères, Ovibus moschatus. C'est une bête laineuse à cornes recourbées que vous avez peut-être déjà reconnue. C'est une bête de l'ère préhistorique, son genre ayant autrement disparu, puisque c'est le seul membre du genre Ovibus. Il n'en reste pas d'autres. Autrefois, il y en avait au Québec énormément, durant l'ère glaciaire. Après, ça a disparu. Et puis, aujourd'hui, dans la chronique fantomatique, on explore un revenant. Puisque d'habitude, dans la chronique fantomatique, on explore un pan de la culture qui est disparu. On a déjà exploré des châteaux disparus, des villages disparus et un animal disparu. Et aujourd'hui, on parle d'un animal qui est effectivement disparu, mais qui semble être revenu. Il s'agit du bœuf musqué. Le bœuf musqué, ce certain revenant qui s'appelle de son nom latin Ovibus moschatus, j'aime bien prononcer le Ovibus moschatus, je pensais personnellement que c'était un bison du Nord, puisque je suis très féru du bison, je trouve que c'est une bête fantastique. Et puis, à mon grand dam, non, c'est pas un bison, c'est même pas un membre de la famille des vaches d'une quelconque façon. En fait, c'est moins pesant. Un bison, ça peut aller jusqu'à une tonne chez les mâles. Le bœuf musqué, bien qu'il ait une gigantesque allure, là, c'est 400 kg. Et puis, en fait, c'est ce qu'on appelle un capriné aberrant. Alors, je trouve ça assez particulier comme style d'animal, capriné aberrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une espèce de... un genre assez particulier de chèvre. C'est une chèvre du Nord. Oui, il fait partie de la famille des chèvres. On aurait pu penser que ça fait partie de la famille des yaks ou de la famille des bisons, mais non. C'est une grosse chèvre. Une bête à longs poils rustiques. Les Inuits, ils appellent ça l'Omi'kmaq. L'Omi'kmaq en Inuktitut veut dire la bête dont le poil ressemble à de la barbe. C'est assez drôle, il y a... Pierre Perrault qui en a fait un film d'ailleurs, L'Omi'kmaq ou l'objectif documentaire, qui est une véritable ode à cette bête-là, au bœuf musqué. Je vous conseille vivement de le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un des derniers films de ce grand cinéaste. Cette bête-là a plusieurs choses particulières. Évidemment, la façon de se défendre, on a peut-être déjà entendu parler des cercles que quand les bœufs musqués sont attaqués par des loups. Le troupeau forme un cercle et à l'intérieur il y a les petits et puis les plus gros membres se cachent à l'extérieur, se font face à l'extérieur pour défendre les petits. C'est une technique qui est très bonne contre les loups et contre les ours, sauf que ça fait de sorte qu'ils sont excessivement faciles à chasser, malheureusement. Mais de toute façon, jusqu'à maintenant, ils ont été protégés. Et puis, une autre chose particulière, c'est qu'ils ont le poil le plus long du monde, jusqu'à 60 cm pour les poils extérieurs. Et on pourrait penser que c'est une espèce de gros poil qui pique, mais je ne sais pas si ça pique ou non, mais en fait, c'est une laine qui est plus fine que le cachemire. Donc, il y a probablement des... sans vouloir mettre un signe de dollar sur un animal, je sais que ça se fait pas, mais ça pourrait probablement être exploité de manière à faire un produit avec une grosse valeur ajoutée. C'est évidemment un peu difficile de l'élever, mais il existe des exemples d'élevage de bœuf musqué en Alaska. Et c'est quand même assez bien élevé. Dans le sens que c'est pas que c'est une bête polie qui dit bonjour, mais plutôt que c'est... C'est une entreprise qui a connu un certain succès, l'élevage de bœuf musqué en Alaska. Il en restait plus au Québec jusqu'en 1968. Mais en 1968, justement, on a essayé d'en faire un élevage non loin de Coujouac. Dans la baie d'Ungava, dans la région du nord du Québec, le Nunavik, qui s'appelle encore... qui ne s'appelle toujours pas le Nunavik officiellement, mais qui, je le souhaite éventuellement, s'appellera officiellement cela. Donc à Coujouac, on a fait un élevage autour de 1968 d'une cinquantaine de bêtes, et puis on n'avait pas les reins assez solides pour rendre cette entreprise-là vraiment viable. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, donc on a décidé de relâcher les 55 bêtes dans la toundra. Et puis, c'était dans la région de l'embouchure de la rivière aux feuilles. Et puis, ces bêtes-là, finalement, ils se sont très plu dans notre territoire, puisque des 55 bêtes qu'on a relâchées à l'époque, il y en a aujourd'hui 1400. Alors, ça veut dire qu'ils se sont plus que plu, ils se sont multipliés, là. Et puis, aujourd'hui, on constate que la population est quand même assez stable. Et puis, même qu'elle va en montant, mais il y a certains prédateurs naturels, on va le voir. Donc, on pensait éventuellement ouvrir la chasse au bœuf musqué. Il y a certains permis qui sont émis, qui sont quand même assez rares, mais certaines personnes peuvent chasser des bœufs musqués. Je dirais pas que je veux favoriser la chasse aux bœufs musqués dans le Nord, parce que c'est quand même 1400 bêtes seulement. Là, c'est, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est surprenant de voir à quel point ces bêtes-là se sont multipliées dans le Nunavik. En Gaspésie, il existe un producteur qui avait longtemps travaillé avec les bœufs musqués, qui a décidé d'en faire un élevage. Il avait décidé de faire un élevage de bœuf musqué. Il avait étudié toute la situation. Il voulait faire un fromage de bœuf musqué. Il avait trouvé moyen de les traire et tout ça, mais de fil en aiguille, il s'est rendu compte que c'était économiquement vraiment difficile. Ça aurait été probablement le premier dans le monde à faire un fromage avec le bœuf musqué. Et finalement, il a décidé d'adopter le yak à la place. C'est un peu triste parce que le yak, il y a déjà des élevages de ça en Amérique du Nord. Le choix facile a été de choisir le yak puisqu'il y avait juste à acheter certains yaks aux États-Unis puis les importer. Et c'est une bête qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Et puis son troupeau de yaks semble bien se porter. Mais c'est dommage parce que ça aurait été fort intéressant de voir un troupeau de bœufs musqués d'élevage en Gaspésie en plus, parce qu'il y a certaines zones en Gaspésie qui sont un peu plus élevées et où on peut trouver des populations d'animaux qu'on retrouve seulement dans le nord du Québec, comme le fameux troupeau de caribou qu'on trouve sur le mont Jacques-Cartier. Là. C'est, il n'y en a pas du tout autour, mais il en reste là depuis l'époque glaciaire. C'est dommage pour les bœufs musqués en Gaspésie, mais ce serait peut-être pour une autre fois. Ça aurait peut-être besoin d'une subvention gouvernementale ou je ne sais quoi. Mais pour revenir aux bœufs musqués qui sont là de manière naturelle dans le nord du Québec, ils mangent du lichen, ils semblent bien aller. Je n'aurais pas posé la question, mais ils semblent bien aller. Et puis, il y a quand même un parasite qui vient régler ou stabiliser la population. C'est que il semble avoir un certain réchauffement climatique. Et puis, dans le lichen, il y a une espèce de ver qui est présent et qui fait de sorte que quand les bœufs musqués mangent ce ver, ça rentre dans leur cerveau, ça mange leur cerveau, ils finissent par mourir. Donc, les cas de bœufs musqués qui sont morts à cause de ce ver semblent augmenter, mais le troupeau semble persister quand même. Donc, c'est peut-être juste un stabilisateur naturel de la population. Du moins, je le souhaite. Mais il y a des biologistes qui s'occupent de ce cas-là. Et je leur remercie d'ailleurs fort bien de faire ça. Donc, c'était une brève ode à Ovibos moscatus. J'espère que le bœuf musqué va avoir une longue vie. Alors, je souhaite longue vie à nos chèvres polaires. Et je vais le dire une dernière fois, Ovibos moscatus. Sur ce, c'était la chronique fantomatique. Et puis, c'était l'émission État de splendeur pour ce 17 août 2010. Et je vais sans doute préparer une émission pour la semaine prochaine qui aura une capacité accrue d'écoute. Alors, sur ce, on va aller retrouver une pièce de Afex avec la pièce XMD5A. C'est sur ça que je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté et je vous dis bonne semaine.
We'll be right back.